Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC.
Vous écoutez
RMC.
Je pense que cruel, c'est le bon mot.
Oh, le ballon récupéré par Diatta, Tézé qui s'est enfermé. C'est un 3 contre 2 pour les Monégasques. Brelem Bolo servi par Diatta. Brelem Bolo dans la surface. Est-ce qu'il y a pénalty ou pas pénalty? Il n'y a pas pénalty. Ils ne sont pas parlé. Le ballon, le but. L'égalisation du PSG.
C'est Gutiérrez. C'est limite en tout cas.
Ouais,
s'il y a enjeu à Strasbourg, il y a enjeu là.
Ça, c'est les choses cruelles de foot. On a dominé les deux matchs.
Attention au deuxième. Attention au deuxième. Oh, et le but de l'Outre-Yon. Et c'est terminé. C'est terminé. L'AS Monaco, qui était à 2 minutes près d'avoir ce ticket pour le barrage.
Nous avons eu plus d'occasions que PSV, mais à la fin, tu n'es pas qualifié.
Alors, vous avez entendu Arnaud Valadon qui était au commentaire du match hier soir avec Maxime Tilliette, donc à Eindhoven. Arnaud qui est avec nous. Salut Arnaud.
Salut Jean-Louis, salut coach.
Alors, on va revenir donc sur cette élimination de Monaco comme la saison dernière. Donc, le Monaco, troisième de Ligue 1, ne verra pas la phase de poule de Ligue des Champions. Élimination donc cruelle, si on reprend le mot du coach Philippe Clément. D'autant que, on l'a revécu en direct, là, mais à la 89e, Monaco était virtuellement qualifié avant cette fameuse égalisation de Gutiérrez. Gutiérrez qui est pas loin d'être hors jeu, mais il ne l'est pas. Mais c'est surtout l'action précédente, le tacle sur Mbolo qui aurait pu faire penalty, qui peut nourrir ce sentiment d'injustice. Monaco est éliminé avec le sentiment d'avoir été meilleur que le PSV. Alors cette élimination, selon vous, était injuste. 32-16 supporters de Monaco. On va vous donner la parole, coach. Je trouve qu'il y a eu injustice.
Ben, injuste, on va pas jouer avec les mots, mais qu'on peut avoir les boules, oui. Mais après, on peut avoir les boules aussi pour certains points qui sont, pour moi, un petit peu délicat. Tu sais, cette histoire toujours, on change pas une équipe qui gagne et tout, mais maintenant avec ces changements, c'est laquelle d'équipe qu'on change pas? Celle qui démarre ou celle qui termine les matchs? Quand je vois que il y a la même équipe à 100% de cette équipe qui avait été décevante à l'aller et qu'on se retrouve la même équipe avec ce Manamino, comment il s'appelle?
Minamino.
Minamino, pour le moment, c'est un Mino. Donc, on va attendre qu'il s'adapte, mais c'est vrai que c'est quand même difficile de jouer à 10 avec un poste qui est quand même important, c'est le sien.
Et surtout, donc, le Monaco après les changements n'avait rien à voir avec le Monaco d'avant les changements.
Mais on a vu aussi un Monaco énorme dans la deuxième période à Strasbourg il y a quelques jours de ça.
Ouais.
Donc, ce Monaco-là qui a la possibilité de pouvoir changer parce que le quatuor offensif de la deuxième partie, c'était quand même un quatuor offensif de 4 sur les 5, voire même 6 rentrées, puisqu'il y a aussi un règlement qui te donne
en prolongation
une sixième possibilité si tu fais les prolongations. Mm-hmm. Non, je pense que Monaco méritait de se qualifier, mais je pense aussi qu'ils peuvent s'en prendre qu'à eux, même si on peut avoir les boules aussi à la 89e minute quand il y a ce but qui est le but catastrophique pour Monaco moralement aussi. Une minute avant, il y avait peut-être quand même un petit quelque chose. Hein. Donc là aussi, la VAR, ils sont bien gentils. Il y a un but qui est refusé. J'ai vu un Strasbourg-Monaco avec une possibilité de marcher. Et là, sur la même ligne, eh ben, des fois, il y a hors-jeu, des fois, il n'y a pas hors-jeu. Quand un joueur, il tourne les fesses et qu'il fait un truc sur un tir et qu'il met le coude, on ne sait pas s'il y a pénalty. Mmh. Ça dépend le camion. Ça dépend s'ils sont à l'apéro dans le camion. Ça, je sais plus quoi faire. J'écoute et j'attends comme un idiot.
Arnaud, c'était quoi le sentiment des Monégasques après le match hier?
Alors, on a eu que Philippe Clément, mais dès le coup de sifflet final de l'abattement, déjà après l'égalisation à la 89e du 2 partout, ce fut dur. On a vu Dizazi qui avait pris le brassard de capitaine parce que Ben Yedder était sorti, essayer de remobiliser tout le monde, ne pas revivre le scénario du Shakhtar où l'année dernière ils avaient passé le tour préliminaire mais avaient buté en barrage face au Shakhtar. Ils avaient perdu 1-0 à Louis II, ils avaient fait 2-2 là-bas en menant 2-0 à la mi-temps. Donc il y avait un petit peu ce spectre, ce scénario catastrophe qui était un petit peu dans les têtes et ils ont pas su en prolongation faire la différence. Ils ont essayé d'envoyer des longs ballons et voilà, au coup de sifflet final, on a vu des joueurs au sol, des joueurs abattus. Ils sont pas venus dans la presse, seul Philippe Clément qui n'a pas voulu blâmer ses joueurs, hein. Vous l'avez entendu, il a dit c'est cruel, mais mes joueurs ont tout donné. C'est un petit peu bizarre le sentiment parce que effectivement l'entraîneur belge voulait pas accabler ses joueurs parce que il y a quand même deux poteaux encore hier, il y en avait eu un montant lors du match aller, mais c'est vrai que ça commence à faire lourd. C'est la quatrième saison de suite sans Ligue des Champions pour Monaco, et Wissam Ben Yedder qui est arrivé en 2019, toujours pas de Ligue des Champions aussi, donc ça pèse un petit peu sur le moral parce que la disette commence à être assez importante pour l'AS Monaco. La dernière fois qu'ils faisaient la Ligue des Champions, il y avait encore pas le chaos.
Il y a des regrets à avoir hier, évidemment qu'il y a des regrets. Après une défaite, ce qui est le plus emmerdant, c'est qu'en plus de la défaite, tu as les regrets. Donc c'est tout à fait normal que le coach, avec une certaine élégance logique, ne peut pas s'en prendre à ses joueurs. S'il s'en prend à ses joueurs, il s'en prend à lui aussi.
Mais oui, bien sûr. Alors, petit
parce que,
point.
Pourquoi simplement, tu sais toujours, ma vision des choses, c'est soit tu es inspiré pour un joueur, pour un entraîneur aussi, soit tu n'es pas inspiré.
Il n'est pas
inspiré, c'est tout.
Du coup, ça fait que Monaco n'a joué qu'une mi-temps sur deux, parce que la première mi-temps à l'aller, ils sont dominés. Et là, la première mi-temps hier, pareil. Hein.
Après, tu peux te dire aussi que l'équipe de la première mi-temps a peut-être fatigué l'équipe du PSV, oui, qui a permis aux autres de prendre les espaces en deuxième mi-temps. Et peut-être que l'équipe qui a fini, s'il avait débuté, aurait peut-être pas eu autant d'occasions.
D'accord. Et puis après, tu peux aussi regarder certains secteurs et certaines individualités. Un Van Dersen, arrière droit. Oui, je veux bien, mais je le vois tellement bon un poil plus haut. Et quand à la fin, on le voit à 35 minutes de la fin avoir des crampes, et quand il ne peut même pas sauter sur le but vainqueur, il y a peut-être un changement qui a pu être maladroit dans un certain secteur. Mais tu sais, Jean-Louis, ces 5 changements, c'est une très bonne chose, mais c'est aussi une complication supplémentaire au coach. Il est déjà pourquoi difficile. Ça me dit, faut pas te tromper dans les 5 changements.
Ah bah oui, mais bon. Les coachs, ils ont justement, ils sont contents normalement des 5 changements.
Ah bah normalement, oui.
Oui.
Mais je te dis normalement, peut-être pas tous.
Hein. Oui. Tu veux dire que ça fait plus de chances de se tromper.
C'est moins facile de se tromper quand il y a 5 changements que quand il y en avait 3.
Aussi. Ah non, il dit que c'est le contraire, Roland.
Oui, mais non, si t'as plus de changements, tu te trompes moins que si t'en avais que 3.
Ah ben non.
J'ai deux chances de plus de te tromper, quoi.
Ah oui.
Bon, alors, et juste petit point de règlement, parce que c'est quelque chose qui a circulé sur le fameux but de Gutiérrez. Tu sais, ça arrive après une position de hors-jeu d'Embolo, et le coup franc consécutif au hors-jeu est tiré dans la moitié de terrain des Monégasques. Donc du coup, il y a eu au début, on crée un peu au scandale en disant, s'il est hors-jeu, forcément il n'est pas dans la moitié de terrain des Monégasques, donc le coup franc ne doit pas être tiré là, donc il y a vis de forme, etc. Finalement, le point de règlement est très clair, si un joueur est hors-jeu et revient dans sa moitié de terrain ensuite, le coup franc doit être joué là où il a joué le ballon, donc il n'y a aucun litige là-dedans, le coup franc pouvait bien être tiré à ce endroit-là. Et donc le seul truc polémique, c'est le pénalty sur Mbolo.
Ouais, puis je te souligne aussi cette passe au gardien en taclant.
Au tout début de partie.
Ah oui.
Armando Obispo.
Tu m'expliqueras si c'est volontaire ou pas, on fera un débat.
Oui, je vois l'action. Oui.
Mais attends, mais en plus de ça, tu vois même le défenseur avant de porter son tacle, parce qu'il peut y avoir but, mais il regarde son gardien et il tacle avec l'intention que le ballon arrive à son gardien. Donc pour moi, c'est une passe volontaire.
On va accueillir
Alors
Christophe.
Je ne te dis pas que le coup franc aurait donné but, on a oublié.
Tiens, d'ailleurs, je voulais ton avis là-dessus, Roland. Je pense savoir ce que tu penses, mais c'est pour être sûr.
Allez, vas-y.
Qu'est-ce que tu penses des gens qui disent, oh là, c'est terrible pour Monaco, ça fait 2 ans de suite qu'ils se font sortir avec la réforme de la règle du but à l'extérieur, ils auraient été qualifiés.
L'année dernière, non, c'est 1-0 et 2-2. Ah, après prolongation,
non, oui,
il y avait 2-1, pardon.
Mais c'est complètement stupide de s'occuper d'un match qui n'est pas du tout le même.
Merci.
S'il y a une demi-heure de la fin, avec un 3-2, que l'année d'avant, tu n'aurais pas été qualifié et que cette année, tu es qualifié, mais c'est pas les 30.
Voilà. C'est pas la même dynamique de match, évidemment.
C'est pas les mêmes 30 minutes.
Je suis content de te l'entendre dire. Voilà. Mais parce qu'on entend, c'est terrible. Avec l'ancienne règle, Monaco était qualifié.
Mais c'est quand, par exemple, tu entends aussi, parce que des conneries, j'ai pu en dire, mais j'ai pu en entendre aussi, compte tenu de mon ancienneté. C'est que quand tu vois qu'on peut te dire, il y a eu 3 occasions, ça aurait pu faire 3-0 à la mi-temps. Mais absolument pas.
Oui.
À partir du moment
où tu mets le premier.
Ah, ben voilà, si tu mets le premier, c'est un autre film.
Ah, mais
tu n'es pas
bien
sûr qu'il y ait le deuxième, tu es encore moins sûr qu'il y ait le troisième. Eh ben non, tu l'entends quand même. On aurait pu mener 4-0 à la mi-temps parce que tu as eu 4 occasions.
Je suis content, j'avais peur de ne plus comprendre mon coach Courbis en revenant de vacances, mais bon, j'ai tout bien en tête encore. Et ouais, voilà.
Bon, ça me rassure. J'ai mal à la tête moi aussi, là, surtout après cette année. Ces deux mois à 7, là, ça n'a pas été simple.
L'élimination de Monaco est-elle injuste? On va continuer le débat dans une seconde avec Christophe qui patiente au 32-16. On va vous donner la parole, supporter monégasque, dans Rotten sans flamme. On est de retour en direct autour de la reprise de la Ligue 1. C'est une sorte de grand échauffement de la saison avec coach Courbis. Jérôme est tranquille en vacances et il est de retour à partir du 22 août. Mais il y a les rendez-vous indéboulonnables de Rotten sans flamme qui sont à venir, notamment Faites entrer l'accusé, Julien Cazard, le ring des supporters, le quiz également tout à l'heure. Coach qui a gagné le quiz hier. On va voir s'il est capable de faire le doublé.
Ça a l'air de te surprendre.
Non, pas du tout. Allez, à tout de suite.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC. RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme.
Jean-Louis.
18h15 sur RMC, c'est Rotten sans flamme avec coach Courbis ce soir jusqu'à 20h. Manchester United sera accusé de faire une erreur en prenant Adrien Rabiot. Ce sera tout à l'heure à 18h30. On sera également en Angleterre, au sud de Manchester, à Chester, où a lieu depuis aujourd'hui le procès de Benjamin Mendy. On vous dira ce qui s'est dit aujourd'hui et ce qu'il faut en retenir. Ce sera tout à l'heure. Mais pour l'instant, on est sur Monaco. L'élimination d'hier au troisième tour préliminaire de Ligue des Champions était injuste. On est toujours avec Arnaud Valadon qui a commenté le match hier à Eindhoven. Et on accueille Christophe, supporter monégasque, coach. Salut Christophe.
Bonsoir messieurs.
Salut Christophe.
Ben, on s'était eu la semaine dernière après le match nul et j'étais au stade et je vous avais dit il faut quand même se méfier des Hollandais qui aujourd'hui en Europe on se rapproche du coefficient européen de plus en plus près de nous et au vu des dernières années ils sont quand même meilleurs. Après si on revient à ce match là, Clément il tente et il fait tourner son effectif, une partie de son effectif samedi à Strasbourg pour que nos fameuses stars, entre guillemets, les Golovin, les Ben Yedder, les Volants, les Minamino, qui sont quand même des internationaux.
Minamino, toi aussi t'as du mal.
Ouais, Minamino, pardon, excusez-moi, je le connais pas encore, mais bon, il a quand même un beau CV.
Pour le moment, c'est Mino Mini.
Voilà, ouais, c'est minimaliste, quoi, pour l'instant. Il est fait reposer. Et à la sortie, ben, c'est eux qui perdent le match ou qui le gagnent pas surtout. Parce que une première mi-temps, comme ils ont pu effectuer ces joueurs-là, sachant, comme tu as dit, Roland, qu'il y a quand même 5 changements, alors c'est un risque de faire 5 changements, mais quand on voit qu'au bout de 40, 45, 60 minutes, Clément est obligé de changer ses 4 attaquants, je crois que j'ai jamais vu ça dans une équipe de foot au niveau européen.
Est-ce que tu penses qu'il est obligé ou est-ce que c'était prévu comme ça de se partager, le boulot?
Pour moi, ils sont pas à la hauteur. Moi, j'étais au match aller. C'est des joueurs physiquement, ils sont pas encore prêts.
Alors, excuse-moi, j'arrive pas à comprendre ton mécontentement. Au match aller, cette équipe qui a démarré hier. Oui. On a vu que les 45 premières minutes étaient insuffisantes et très moyennes. Donc, tu remets la même et qui est à nouveau insuffisante et très moyenne, je trouve.
Sauf que t'as joué un gros match samedi en pleine chaleur à Strasbourg et que on est en début de saison et tu connais un effectif, il faut quand même le ménager parce qu'il y a les premiers risques de blessures musculaires qui arrivent très tôt dans la saison. Et je pense qu'il fait confiance à des joueurs qui ont normalement la capacité et l'expérience à l'extérieur, dans une ambiance assez chaude là-bas, pour faire la différence. Et c'est ces joueurs-là, moi, que j'en veux, à ces 4 joueurs-là, de ne pas avoir fait la différence. On rentre à la mi-temps avec 0-1 comme match aller. Donc, quand il fait ce changement, il fait rentrer le jeune Mbolo. Le jeune Mbolo, en 10 minutes, il avait déjà fait plus que les 4 attaquants.
On est d'accord.
Ah ouais.
Et ça, c'est pas normal. Parce qu'il vient à peine d'arriver, ce jeune-là.
Diatta a porté plus aussi, Jelson Martins aussi.
Donc Diatta, il revient de 1 an de blessure, il faut le savoir. Il n'a pas joué depuis 1 an. Hein, il s'est fait une rupture des ligaments. Il a pas joué de 1 an. Il revient à peine. Il avait joué à Strasbourg quand même, où c'est lui qui débloque la situation. On fait rentrer, en fait. Après, on peut pas s'attendre à des miracles quand nos leaders, ne font pas la différence. La génération de Julie, il n'y avait pas des stars au début quand elle commence la Champions League. La génération de Mbappé, il n'y avait pas de stars, sauf que les mecs, ils étaient à 150%. sur un match de Ligue des Champions, si on rehausse pas son niveau, on ne peut pas passer. C'est
mais
pas possible.
Autre chose, je crois que dans une réussite, c'est-à-dire une qualification, eh bien, on salue et on félicite tout le monde, pas seulement les joueurs, le staff, les dirigeants, etc., etc. Mais dans une élimination avec un Tchouaméni qui n'a pas été remplacé, avec deux arrières centraux qui sont très, très moyens, et Monaco qui est à la recherche, justement, au moins d'un arrière central, si c'est pas deux, eh ben, t'es éliminé en début du mois d'août contre une équipe dans un tour préliminaire dont tu étais quand même au courant. Mmh. Donc c'est là, on va parler des changements, on va parler de la première mi-temps, on va parler de la deuxième mi-temps, des prolongations, etc. Ok, mais de Tchouaméni qui a brillé par son absence, oui. On peut en parler deux secondes quand même.
Et rien sur le gardien? Parce que le gardien, il a le droit de sortir aussi à un moment.
Ben oui, mais bon, ce gardien, écoute, il a progressé parce que de très mauvais, il est passé à moyen. Donc,
on dit rien, mais bon, ça reste moyen.
C'est déjà pas mal, mais ça reste moyen.
Justement, il y a des conséquences sur le mercato, cette élimination, Arnaud?
Le fait qu'il n'y aura pas de Ligue des Champions, c'est déjà une manne financière en moins. C'est 15 millions le ticket d'entrée et après, en fonction, victoire ou nul, vous prenez. Donc c'est sûr que l'AS Monaco, qui a déjà vendu Tchouaméni pour un très gros montant, là, d'être enfin fixé, de savoir que c'est Europa League, forcément, ça va changer des plans. Alors l'arrivée de Malang Sarr en défense centrale est vraiment dans les tuyaux, c'est déjà payant. Pas mal, mais est-ce qu'ils vont faire un autre défenseur central? Il y avait une piste Eric Bailly, ça reste à confirmer, sachant qu'on semble se diriger vers quand même une organisation à 3 centraux, vu le monde qu'il y a. Benoît Badiachil, quid de Benoît Badiachil, qui se remet d'une blessure, c'est pour ça qu'il n'était pas là hier, mais il y a des gros prétendants en Europe. Est-ce que Monaco va pas finir par lâcher parce que sans Ligue des Champions, évidemment, un joueur comme Badiachil a envie de la jouer pour progresser, pour se montrer. En plus, on est dans 6 mois avec une Coupe du Monde, on sait jamais trop ce qui peut se passer. Au milieu de terrain, le remplaçant de Tchouaméni, hier, on avait la paire Matadzo, Youssouf Fofana qui était très bon, très mais bon hier, pendant le match, on se disait et il manque peut-être ce milieu qui allait percuter. Il y a dans les rumeurs Boubacary Soumaré, l'ancien Lillois aujourd'hui à Leicester, mais est-ce que ça correspond totalement au profil d'un Tchouaméni? C'est peut-être un peu plus défensif, mais voilà, il est forcément... Ben,
c'est déjà peut-être un petit peu supérieur à Matazo.
En tout cas, ça vient densifier effectivement ce milieu de terrain orphelin du départ de Tchouaméni, mais l'AS Monaco reste quand même pourvu devant, Volland, Ben Yedder, Brel Mbolo qui a fait une bonne entrée hier, l'international suisse.
8 à 9 attaquants pour 4 postes.
Forcément, pour jouer l'Europa League, il faut quand même être doubler les postes, mais on est moins attractif que pour la Ligue des Champions. Donc évidemment, pour Paul Mitchell et la direction sportive, ça va rebattre des cartes. Alors on parle de Philippe Clément, parce qu'on se souvient que l'année dernière, ça avait c'était le début de la fin de l'ère Kovac, cette élimination contre Shakhtar. C'était quelques semaines plus tard.
Mais
ce fut un point de rupture, un début de rupture.
Aussi du côté de Monaco et aussi du côté de Marseille. À quoi a pu tenir la qualification ça a tenu à un but à la dernière minute. Comme hier, match il se joue à la 89e minute.
Alors, on va arrêter là sur Monaco. Tu voulais ajouter un mot, Arnaud? Non, c'est bon. Oui, très bien. Alors, merci Arnaud d'être venu. À très vite. On remercie Christophe également qui est venu au 32-16. À bientôt sur RMC, Christophe.
Merci et bonne soirée à vous.
32-16, supporter de Monaco. Faites comme Christophe. Venez nous dire ce que vous avez sur le cœur après cette élimination donc de votre équipe. Oui.
J'ai un truc à rajouter parce que Clément Brossard vient de m'envoyer un petit message. Il suit Monaco.
Qu'est-ce qu'il vient, celui-là?
C'est officiel pour Malang Sarr, prêt avec option d'achat.
Très bien. Impeccable.
Mais c'est une très bonne pioche, ça, je trouve, mais au poste d'arrière central, pas comme il était utilisé à Nice, à latéral.
Alors, on laisse Monaco de côté et on va tout de suite en Angleterre. On va tout de suite à Chester, même précisément, au sud de Manchester. On retrouve Nicolas Pelletier, notre envoyé spécial. Salut Nico.
Salut à tous.
Début aujourd'hui du procès de Benjamin Mendy que tu suis donc, le champion du monde qui a plaidé non coupable. C'est ce qu'il faut retenir de ce premier jour?
Oui, on l'a vu arriver ce matin, il était à peu près 10h50 heure anglaise, 11h50 heure française. Il est arrivé dans une berline, il est sorti avec son costume sombre et sa cravate. Il s'est pas éternisé devant l'ensemble des photographes et des caméras qui étaient présents juste devant l'entrée de la cour de Chester, ici au sud de Manchester. Et donc Benjamin Mendy est rentré dans la salle d'audience numéro 1 et il a décliné son identité. Déjà cette scène était assez impressionnante car on a vu un Benjamin Mendy très sérieux, on avait quand même l'habitude de le voir de bonne humeur. C'était un peu l'ambianceur de l'équipe de France en 2018. On retient quand même sa bonne bouille, hein, celui qui rigole à chaque fois. Ben là, il était très sérieux. Il a décliné son identité et derrière, le juge qui faisait face à Benjamin Mendy lui a décliné un nouveau viol à son encontre. Et donc Benjamin Mendy a plaidé une nouvelle fois non coupable. On le rappelle, il y a 10 faits présumés à l'encontre de Benjamin Mendy, 8 viols, une tentative de viol et une agression sexuelle. Et donc Benjamin Mendy vient à l'instant de sortir de la cour de Chester, ici au sud de Manchester, et ça va durer comme ça pendant plusieurs semaines.
Oui, c'est ça, on est parti sur
2 à 3 mois.
Un
très long procès, ça pourrait durer plus de 10 semaines. La justice anglaise prend son temps dans ce dossier très compliqué, hein. Certaines personnes proches du dossier nous le disaient, c'est quand même un dossier très compliqué car on parle en fait de l'aspect du consentement et donc c'est tout le temps très difficile à démontrer dans les faits.
C'est-à-dire que si on a bien compris, donc on plaide coupable ou non coupable, un petit peu comme en Amérique, il suffirait simplement qu'il y ait un dossier avec la démonstration ou l'interprétation qu'il est coupable pour que justement tout tombe à l'eau.
C'est exactement ça, coach, et on peut aussi le signaler, c'est que dans les faits, en fait, ce qu'on lui reproche à Benjamin Mendy correspond à l'article 1 de la loi sur les délits sexuels en Angleterre, et donc ça entraîne la perpétuité en tant que sanction. Dans les faits, on a demandé à plusieurs avocats spécialisés dans le droit anglais, il pourrait prendre entre 5 et 20 ans de prison, tout dépend aussi des dossiers pour lesquels il est inculpé, et tout dépend aussi à la fin de ce qui reste de ce dossier, mais voilà, entre 5 et 20 ans de prison, c'est ce que risque Benjamin Mendy aujourd'hui en Angleterre.
Ok, ben merci Nico pour ces infos.
Salut Nico.
Et évidemment, on vous relaie les infos que tu as sur rmcsport.fr. Dans une seconde, Manchester United, on revient au foot, est accusé de se tromper avec Adrien Rabiot. Le transfert n'est pas fait, mais il fait déjà grincer des dents les supporters de Manchester United. On vous explique pourquoi dans une seconde dans Rotten sans flamme. A tout de suite.
Retrouvez Rotten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.